Merci à vous.
Merci René Lec.
Au revoir Eric.
Yaka Lagoke, merci également.
Merci beaucoup.
Merci à Lionel Lunanira Garima pour la mise en onde. Eric Manirakiza, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 19 juin 2020. De Normandia à la présentation, voici les titres. Nouveau rassemblement monstre à Bamako pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle demande que le dossier sur le procès pour corruption de Vital Kamerhe lui soit transmis. En Côte d'Ivoire, un glissement de terrain fait une vingtaine de morts dans la banlieue d'Abidjan. Visite surprise du président burkinabé Rochemark Christian Kabore dans la région de Djibo, en proie à des attaques de groupes armés. Et puis les États-Unis commémorent l'anniversaire de la fin de l'esclavage dans un contexte de débat sur l'égalité raciale. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et le sport, mais tout d'abord le journal. Au Mali, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont afflué sur la place de l'indépendance avec des vuvuzelas et des banderoles pour réclamer la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
C'est depuis 9h du matin que les populations ont convergé vers la place de l'indépendance. Nous sommes venus pour la victoire finale. Il n'y a pas de négociation possible. Ibeka doit démissionner, explique Mamadou Diakité, enseignant.
Si les lois de la République ne sont pas appliquées, il a failli à ses devoirs. Nous lui disons, dans le respect des textes, avec tout le respect que nous avons pour le président de la République, les Maliens veulent réellement vivre mieux. La responsabilité qu'on lui a conviée, il est temps qu'il rende ça au plus paisiblement. Nous sommes là dans un cadre légal, une manifestation légale.
Les femmes ne sont pas restées en marge avec des spatules, des balais à main. Pour elles, ce vendredi est le dernier jour du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Notre deuxième sortie aujourd'hui, c'est que je vois les gars. Aujourd'hui, Ibeka va laisser le pouvoir, s'il plaît au bon Dieu. La CEDEAO ne peut pas arranger le Mali. On a passé des élections présidentielles ici. La CEDEAO est venue pour observer. C'est la CEDEAO qui sait qu'on a triqué les élections, mais la CEDEAO a dit que les élections sont bien dites.
Pour les manifestants, ils ne vont pas quitter la place de l'indépendance tant qu'ils Ibrahim Boubacar Keïta ne démissionnera pas. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, un glissement de terrain a emporté un hameau d'une vingtaine de maisons à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, après des pluies diluviennes ces derniers jours. Le bilan est d'au moins 13 morts et de nombreux disparus qui sont ensevelis sous des tonnes de boue. Claire Morin-Jubourg.
C'est le chaos à Anyama. Des centaines de personnes s'enfoncent dans la boue, parfois jusqu'aux hanches, pour tenter de retrouver des survivants. Les rails du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou sont suspendus en l'air comme s'ils formaient un pont, la colline sur laquelle ils reposaient ayant disparu. L'éboulement a tout détruit et débris matériels et affaires personnelles sont dispersés sur 70 mètres. Le hameau appelé Derrière les rails est situé dans une zone inondable et non constructible, habitée depuis des années par des familles modestes. Le bilan définitif devrait être beaucoup plus lourd. La saison des pluies a commencé en mai dans la région d'Abidjan et les pluies avaient déjà causé un mort le week-end dernier. Les précipitations torrentielles suivies d'inondations ou d'éboulements de terrain affectent régulièrement la capitale économique ivoirienne. Les autorités tentent de freiner les constructions en zone inondable. En juin 2018, 18 personnes étaient mortes après des inondations à Abidjan.
Au Burkina Faso, visite surprise hier du président Rochemark Christian Kabore à Djibo, dans le nord du pays. Il a promis le retour des forces de sécurité dans cette ville en proie à des attaques djihadistes. Jacques Aristide.
Le chef de l'État burkinabé affirme avoir pris l'engagement que Djibo est et restera jamais en territoire burkinabé. Je veillerai à ce que les forces de sécurité intérieure, que sont la police et la gendarmerie, reprennent du service dans la ville, écrit Rochemark Christian Kabore sur son compte Twitter. Il a rencontré les militaires et les forces vives de Djibo et a dit vouloir que les populations déplacées retrouvent leurs terres à Djibo. Un certain nombre de zone où l'armée était positionnée ont été délaissées, ce qui fait que la pression est forte sur Djibo et de tous les côtés, a déclaré le président Kabore aux forces armées. Il a insisté pour que ces postes soient repris afin de soulager et de lever un peu le verrou sur l'ensemble des troupes qui sont à Djibo. 7 des 9 communes de la province du Soum se sont vidées de leur population, la ville de Djibo enregistrant environ 150 000 personnes déplacées. Les attaques djihadistes ont fait près de 1 000 morts et environ 1 million de déplacés depuis 2015 dans différentes régions du pays.
En République démocratique du Congo, rebondissement dans le procès anticorruption impliquant Vital Kamerhe, allié politique et directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi. À 24 heures du jugement, la Cour constitutionnelle a demandé au tribunal de lui transmettre le dossier en état et toute affaire cessante. Le 11 juin, le parquet avait requis 20 ans de prison contre Kamerhe, jugé pour le détournement présumé de plus de 50 millions de dollars d'argent public. La même peine avait été requise contre l'un de ses deux co-accusés, l'entrepreneur libanais Jamal Sami. La Cour constitutionnelle doit examiner l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de la défense.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières a été unanimement adoptée ce vendredi par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après le retrait d'une mention ciblant spécifiquement les États-Unis. Le Conseil des droits de l'homme, instance onusienne basée à Genève et dont Washington s'est retiré en 2018, a adopté par consensus cette résolution présentée par des pays africains. C'est dans le cadre d'une réunion d'urgence convoquée après la mort ici aux États-Unis de George Floyd et les manifestations organisées contre le racisme dans le monde entier. Et puis les États-Unis commémorent ce vendredi 19 juin le Juneteenth, une date choisie pour marquer l'abolition de l'esclavage. Cette année, la célébration se déroule en pleine période de tension et de prise de conscience des discriminations subies par la communauté noire. Gabi Dorsil.
Le 19 juin 1865, les esclaves de Galveston au Texas ont appris qu'ils étaient désormais libres. Cette date a été baptisée Juneteenth, contraction de juin et 19 en anglais. Elle est aussi appelée jour du jubilé ou jour de la liberté. Le Juneteenth est majoritairement célébré par des réunions familiales et des services religieux. Des parades et des commémorations sont également organisées dans certaines villes du pays. De New York à Los Angeles, de multiples manifestations sont prévues pour le 155e anniversaire de Juneteenth. Cette année, la commémoration intervient en plein mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières qui ont suivi la mort de George Floyd, un Africain-Américain de 46 ans, lors de son arrestation par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis. Plusieurs grandes sociétés américaines, comme Nike ou Twitter, ont depuis annoncé que le 19 juin serait un jour chômé pour leurs salariés. Le président Donald Trump a reporté à samedi un meeting de campagne à Tulsa dans l'Oklahoma, par respect pour ce jour de commémoration, dit-il. La ville reste marquée par le souvenir du plus grand massacre d'Afro-Américains en 1921.
Nous y reviendrons en partie magazine. La pandémie de COVID-19 continue de progresser dans le monde. L'université Johns Hopkins de Baltimore, dans l'état de Maryland, ici aux États-Unis, dénombre à ce jour plus de 8 500 000 cas confirmés et plus de 450 000 morts de cette maladie causée par le nouveau coronavirus. Malgré tout, les pays poursuivent le déconfinement dans le but de relancer leurs économies. Le point avec Mohamed Oumfa.
Les États-Unis restent le pays le plus touché avec 2 millions de cas confirmés sur les 8,5 millions recensés à l'échelle mondiale. Ils sont avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Grande-Bretagne, les pays ayant fait état du plus grand nombre de cas dans le monde. Le continent africain enregistre plus de 260 000 cas confirmés et plus de 7 000 morts avec en tête l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et le Ghana. La Chine rapporte ce vendredi 25 nouveaux malades de COVID-19 à Pékin. Cependant, les autorités chinoises écartent le risque d'une nouvelle propagation de la pandémie, affirmant que la situation, notamment à Pékin, est sous contrôle. En Inde, la quinzaine de millions d'habitants de l'agglomération de Chennai, au sud du pays, est entrée dans un nouveau confinement face à l'intensification de l'épidémie. Ici aux États-Unis, de nouvelles mesures de confinement ne seront pas nécessaires malgré un rebond du coronavirus dans certains États, selon Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses et conseiller du président américain sur la crise du COVID-19. L'Europe va ouvrir ses frontières à une cinquantaine de pays hors de sa zone. Une première liste sera rendue publique en milieu de semaine prochaine.
Le monde est entré dans une phase nouvelle et dangereuse à mesure que les pays lèvent le confinement ou les restrictions pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, s'est alarmé l'OMS ce vendredi. Beaucoup de gens sont évidemment fatigués de rester chez eux. Les pays sont désireux de rouvrir leur société et leur économie, a déclaré le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse virtuelle. Mais le virus continue de se propager rapidement, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées. Le patron de l'OMS a ajouté que plus de 150 000 nouveaux cas ont été recensés en une seule journée, un record depuis le début de l'épidémie. Une étude de l'Institut supérieur de la santé italien révèle que le nouveau coronavirus était présent dans les eaux usées de Milan et Turin dès décembre 2019, deux mois avant le premier malade officiellement recensé dans le pays. L'étude a examiné 40 échantillons d'eau usée recueillis entre octobre 2019 et février 2020. L'épidémie de nouveau coronavirus a fait officiellement plus de 34 500 morts en Italie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manerakiza.
L'Afrique de l'Est s'attend dans les semaines à venir à une troisième vague de criquets du désert qui continue de menacer sa sécurité alimentaire. La Banque mondiale a approuvé en mai un programme d'aide de 500 millions de dollars en faveur de la région. En Éthiopie, entre janvier et avril, les criquets ont détruit 1,3 million d'hectares de pâturage et près de 200 000 hectares de champs, entraînant la perte de 350 000 tonnes de céréales, note l'organisme régional est-africain IGAD dans un rapport en date du 4 juin. La Somalie avait début février déclaré l'urgence nationale face au fléau. En revanche, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi ont été épargnés, soulignent les experts. Le constructeur automobile allemand BMW va supprimer 6 000 emplois cette année, notamment via des départs en retraite anticipés, a-t-il annoncé vendredi sur fond de crise liée au nouveau coronavirus.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Kheireddine Zetchi insiste. Le président de la Fédération algérienne de football a réitéré sur Radio Algérie qu'il ne sera pas candidat à un second mandat à la tête de l'instance. Le propriétaire de l'Académie Paradou, qui a produit des talents comme Youssef Attal ou encore Hicham Boudaoui, l'avait déjà annoncé après son élection en mars 2017. L'intérêt du football algérien est ce qui nous intéresse le plus. Je compte terminer mon mandat et partir pour laisser la place à d'autres. À l'heure où je vous parle, même si je ne sais pas ce que le destin peut nous réserver, je compte terminer mon mandat à la tête de la FAF et partir, disait-il encore en novembre 2019. Zetchi, qui a succédé à Mohamed Rawarawa, va donc céder son fauteuil en 2021 à la fin de son unique mandat. En 3 ans, il compte un titre de champion d'Afrique avec son pays, remporté l'année dernière en Égypte. Et puis, la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, fait part de son inquiétude au sujet du calendrier chargé qui attend les footballeurs en période post-Covid-19. Depuis la reprise, nous observons un premier pic de blessures en raison de la préparation insuffisante et du calendrier chargé de rencontres, écrit l'instance dans un communiqué, alors que l'Allemagne, qui a repris le 16 mai, s'apprête à terminer la Bundesliga le 27 juin. L'Espagne, l'Italie et l'Angleterre viennent de reprendre. Ces grands championnats se sont engagés dans un sprint sous haute surveillance sanitaire pour finir avant le 3 août. Ensuite viendra la Ligue des champions et la Ligue Europa en août, puis le début de la saison 2020-2021 avant l'Euro en 2021 justement. Tout cela annonçant un rythme soutenu pour les footballeurs de l'élite. La FIFPro suggère de conserver une période de repos de 5 à 6 semaines avant la reprise de l'entraînement en vue du début du prochain exercice. En Espagne, la justice Debout Naïma, qui réclamait 43,6 millions d'euros de primes non perçues, et le condamne à rembourser 6,79 millions d'euros à son ancien club. En mettant un terme à son contrat barcelonais avant la fin de ce dernier, Naïma n'avait pas le droit de toucher la somme qu'il demandait et devra rembourser au club l'excédent perçu de la prime de prolongation pour avoir mis un terme à son contrat sans justification, a tranché un tribunal de Barcelone. À l'époque de son transfert à Paris, pour un montant record de 222 millions d'euros, Neymar a engagé des procédures pour obtenir le versement complet par le Barça d'une prime de prolongation de 64,4 millions d'euros, mais le tribunal a rejeté sa demande. Ce verdict est un point d'achoppement supplémentaire dans le dossier du retour possible du Brésilien au Barça.
Merci, Yacouba. Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le samedi 20 juin, demain donc, marque la 19e célébration de la Journée mondiale des réfugiés. En cette période difficile marquée par la pandémie de Covid-19, le HCR met en évidence les défis et les contributions des réfugiés. Une occasion également de sensibiliser et de mobiliser des fonds pour leur prise en charge. Suivez ce reportage d'Aracha Arabassadi et c'est un récit de Thierry Kaouré.
Le réfugié syrien Mohamed Al-Khalaf a fui son pays ravagé par la guerre pour tenter une nouvelle vie en Allemagne. Loin des bombes et des effusions de sang, il a poursuivi son rêve de devenir opérateur ferroviaire.
Je suis quelqu'un qui essaye toujours de bien faire son travail et de grandir.
Al-Khalaf est l'un des millions de déplacés que les Nations Unies saluent à l'occasion de cette 19e journée mondiale des réfugiés. Jedini Williams est du Bureau mondial des communications du HCR.
Nous voyons cela comme une opportunité, non seulement pour mettre en évidence la situation critique des réfugiés et la nécessité d'une protection internationale et d'un soutien international pour les réfugiés, mais aussi toute la diversité et les contributions qu'ils offrent au monde à tout moment.
Elle dit que le nouveau coronavirus ajoute encore un autre défi pour les réfugiés déjà en difficulté.
Il y a des endroits où, en raison de la pandémie de COVID-19, il y a moins de présence d'organisations internationales.
Ces endroits incluent le Yémen, où la violence a explosé cette semaine après l'expiration d'un cessez-le-feu lié au coronavirus. Selon le porte-parole de l'ONU, Chris Buhan, environ 80% de la population déchirée par la guerre dépend de l'aide humanitaire, poussant les programmes d'aide au point de rupture.
Dans l'ensemble, nous sommes toujours dans une situation où les moyens et les ressources que les humanitaires en général et le HCR en particulier possèdent aujourd'hui pour répondre et pour aider les gouvernements et tous les peuples à relever les défis actuels restent encore limités.
La guerre et la violence ont fait fuir bon nombre de quelque 71 millions de réfugiés du monde. Répondre à leurs besoins nécessite donc une mobilisation internationale à grande échelle, a déclaré Chris Buhan, porte-parole de l'ONU.
C'est pourquoi le HCR travaille avec le gouvernement des États-Unis et d'autres gouvernements du monde entier pour trouver des solutions adéquates, des solutions à la fois à la hauteur des défis à relever et mises en œuvre de manière durable.
Cela permettra de donner aux réfugiés comme Al-Khalaf une chance d'avoir une vie normale.
Jacques Aristide avec vous, VO Afrique vous propose une nouvelle émission spéciale sur la maladie de Covid-19, un nouveau forum citoyen virtuel entièrement consacré à la pandémie du nouveau coronavirus à l'heure du déconfinement graduel dans de nombreux pays, y compris en Afrique. Nos invités répondent à vos questions qui touchent notamment la santé publique et l'économie. Où en est-on dans la lutte contre la maladie? Quel impact sur la vie quotidienne? Quel plan de relance de l'activité? Et comment se projette l'après-Covid? Programme spécial Covid-19, rendez-vous le samedi 20 juin et le dimanche 21 juin à 10h et 12h en temps universel sur VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, plus de 8000 réfugiés rwandais sont sans statut depuis décembre 2018. Les autorités et le HCR ayant mis en exergue la clause de cessation de ce statut sans document ou pièce d'identité, ces ressortissants rwandais font face à de nombreuses tracasseries. C'est un reportage de Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Nous sommes au camp de réfugiés rwandais à Kitele, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville. Ici,
pays, près de 500 personnes y vivent et ont toutes perdu leur statut de réfugiés. Elles font alors face depuis fin décembre 2018 aux diverses tracateries policières. Théogène Hakim Rukundo, un habitant du camp.
Ici, nous sommes des morts vivants parce que ces cabanes que vous voyez sont érigées ici depuis 23 ans. Le processus qui a été enclenché par l'OHCR et l'État congolais n'a pas respecté la convention internationale en matière de droits de l'homme, en matière de statut de réfugié. Alors, nous ne pouvons pas rentrer parce que l'armée patriotique rwandaise qui nous a chassés du pays est toujours au pouvoir.
Le président de la communauté rwandaise au Congo, Aloïs Bayungana, qui habite le même camp, se plaint des tracasseries policières.
C'est-à-dire, bon, quand les réfugiés passent, la police l'arrête. Présentez-moi ta carte. Ta carte est expirée. Tu ne dois pas être ici. Il faut partir chez vous à l'ambassade dans votre pays. Donc, ce n'est pas ici. Mais à ce moment, ils demandent l'argent, 2000, 3000. Et puis, ou bien quelquefois, il y a même des gens qu'on met dans les DJ, on a vu tout. Et les téléphones et tout cela.
Les femmes plaident pour la reconnaissance des droits de leurs enfants nés sur cette terre de refuge. Angélique Karuyonga, mère de famille.
En principe, il fallait que nos enfants aussi aient le droit comme un enfant qui est né au Congo. Et que le problème des cartes nous a fait du mal et que maintenant nous n'avons pas aucune liberté pour faire quelque chose. Nos enfants aussi n'en ont pas aussi parce qu'ils sont déjà qui sont les enfants du Rwanda.
À Brazzaville, plusieurs associations suivent la situation de ces réfugiés et appellent les autorités à un traitement plus social. Alain Kombo est le président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, ADUC, qui s'est saisi de l'affaire depuis 5 ans.
La grande majorité, près de 8400, n'ont pas eu le statut. Et ces réfugiés sont ici comme des clandestins parce qu'ils n'ont pas de documents fiables pour faire n'importe quelle opération au niveau de notre pays. Le problème, qu'il y ait une commission qui peut rassurer les réfugiés qui sont ici et certainement ils vont rentrer chez eux.
Pour demain 20 juin, journée internationale des réfugiés, le gouvernement, le HCR, reste sur cette clause. Pas un seul réfugié rwandais né sur le sol congolais. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Sénégal, les personnes vulnérables qui vivent souvent d'activités informelles sont plus que jamais menacées par l'insécurité alimentaire en cette période de pandémie. Dans la banlieue de Dakar, la situation économique et sociale est critique avec peu d'activités et une répartition de l'aide alimentaire qui ne satisfait pas les nombreuses familles impactées par le Covid-19. De notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
L'insécurité alimentaire ne guette pas seulement les ménages pauvres. Dans la banlieue de Dakar, plusieurs jeunes responsables de famille sont dans l'incertitude depuis plusieurs semaines. La Covid-19 les prive de revenus, comme s'en plaint Hassan Djiba.
Ça sera difficile pour la banlieue de sortir. Il faudrait d'abord des mesures strictes et une aide de l'État. C'est-à-dire le secteur informel règne en banlieue. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le secteur informel actuellement. Les activités sont tellement réduites. En plus, les aides financières promises par l'État tardent à venir. Ici en banlieue, bon, ça sera difficile.
La teneur de cette aide tant attendue est critiquée par certains bénéficiaires qui la trouvent insuffisante pour 3 mois. Pape Modou Fall, habitant de Medina Gounas, affiche sa déception.
Le temps qu'on a attendu, ça ne valait pas la peine. Parce que le temps qu'on a attendu et on nous a donné des choses que moi, que je ne croyais pas que c'est ça l'aide alimentaire. Une bouteille de 7 antipes, un demi-sac de riz, 25 kilos sur 3 mois. Et on peut le manger même pour 10 jours. Sérieusement, à l'heure actuelle, j'attends plus rien du gouvernement. Mieux vaut prévenir que de guérir. Attendre des choses qui ne vont pas vous aider, sérieusement, ce n'est rien.
L'État a choisi l'option la plus compliquée en voulant procéder à une distribution nationale de l'aide alimentaire. C'est l'avis de Sidiki Daf, expert en gouvernance et participation populaire. Pour lui, des solutions beaucoup plus simples et transparentes étaient à la portée des autorités.
Vouloir acheminer des tonnes et des tonnes
de vivre dans les 14 régions du Sénégal, c'est impossible. Il aurait été plus simple d'envoyer des bons d'achat. Franchement, c'est ça qui est le plus simple. Ou alors d'envoyer de l'argent par les e-money. Mais vraiment, c'est ça qui est le plus simple. Là, bon, j'ai entendu avant-hier le ministre chargé de la solidarité sociale dire on a des difficultés. C'est normal. Mais vous voulez dispatcher des tonnes de riz, de l'huile, je crois, du savon, de la lessive, du sucre, en moins d'un mois. Depuis presque un mois et quelques, les gens qui en ont besoin n'ont rien reçu. Parce qu'en fait, c'est très mal organisé. En plus, la traçabilité pose problème.
Face aux multiples plaintes de Sénégalais, lassés d'attendre depuis bientôt deux mois, les autorités ont reconnu des difficultés dans le paquetage des kits alimentaires causées par la rupture de certains produits. Cependant, le ministère de l'Équité sociale a assuré que cela a été réglé et qu'une bonne partie des produits sont en cours d'acheminement. Pour rappel, cette aide doit toucher 1 million de ménages vulnérables, ce qui représente environ 8 à 10 millions de Sénégalais. À Dakar, Seydina Aba Gueye pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Cette année, la commémoration de l'émancipation des Noirs aux États-Unis, communément appelée Juneteenth, se tient dans un contexte de débat sur les violences policières contre la communauté afro-américaine. Les récentes manifestations provoquées par la mort de George Floyd sous le genou d'un policier blanc ont remis sur la table la question raciale aux États-Unis. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint ici à Washington Marilyn Seafolk de Howard University.
Eh bien, on célèbre chaque année cette journée parce que c'est une journée vraiment très symbolique. C'est la journée, on célèbre la journée du 19 juin 1965. Où le général Gordon Granger, du haut du balcon de la Villa Ashton à Galveston, au Texas, a pris la parole et il a lu cette ordonnance qui disait que les esclaves étaient maintenant libres. Alors ça, c'est une journée très importante. Et pourquoi c'est important que ça se soit passé à Galveston, au Texas? C'est parce que le siège, si vous voulez, des confédérés, c'est-à-dire des esclavagistes, se trouvait justement dans cette villa à Galveston. Donc ça montrait un retournement complet de la situation et ça scellait, si vous voulez, la victoire des troupes de l'Union, c'est-à-dire des troupes anti-esclavagistes.
Alors cette année, ça tombe sur toutes ces manifestations qui ont lieu depuis plusieurs semaines. Et donc, du coup, ça a une signification particulière.
Oui, ça a une signification d'autant plus particulière parce que cela montre qu'il y a une espèce de regain, si vous voulez, une attention encore beaucoup plus profonde portée sur la population noire.
Alors, il y a eu aussi ce débat, que ce soit ici aux États-Unis, mais aussi en Europe, sur les monuments, notamment des grandes figures de l'esclavage. Quelle est votre pensée là-dessus?
Alors, à mon avis, c'est... bâtiments ne devraient peut-être pas être complètement détruits, mais devraient être rassemblés, mis dans un musée. Mais mettre un bâtiment, mettre un monument qui représente un esclavagiste, qui représente quelqu'un qui a eu en soi la haine de l'autre, la haine du noir, je pense que c'est un non-sens que d'avoir toutes ces statues. Nous avons nos héros, nous avons des héros de toutes les races, de tous les groupes ethniques qui ont amené quelque chose de positif à l'humanité. Donc pourquoi avoir, par exemple, devant l'Assemblée nationale française, la statue de Colbert, alors que Colbert était un esclavagiste? Voilà, pourquoi avoir toutes ces statues de confédérés dans le sud des États-Unis, hein, alors que il y a énormément de personnes, des inventeurs noirs, des Amérindiens, des Native Americans qui ont eux-mêmes apporté leur pierre à l'édifice. Il y a des blancs aussi qui ont apporté quelque chose de positif à la race humaine. Donc il n'y a pas mettre en valeur ceux qui justement ont dénigré une partie de l'humanité, à mon avis, c'est quand même un non-sens.
C'était Marilyn Seafolk, professeure de langue à Howard University.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
À la fin de cette édition, à la mise en onde de Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnon, à la présentation Abdelrahman Diak.